Alors bonjour à tous, je m'appelle François-Xavier Fèvre, je suis praticien en hypnose ericksonienne et praticien en programmation neurolinguistique aussi.
Moi je voulais savoir d'où vient l'hypnose, est-ce qu'il y a des écoles, des formations, ou est-ce que c'est un don?
C'est un mélange de tout ça, je dirais. Ouais, c'est-à-dire que l'hypnose telle qu'on la connaît aujourd'hui, on peut la trouver notamment dans les spectacles, hein, tout le monde connaît Mesmer.
Oui.
Et en général, l'hypnose est vraiment associée au monde du spectacle. Mais il y a d'autres types d'hypnose. Il y a l'hypnose notamment ericksonienne, c'est ce que je pratique, qui date 1940 à peu près, de ces eaux-là. Disons qu'on a modélisé la façon de faire d'un médecin américain qui avait une façon de faire un petit peu particulière et qui a énormément utilisé l'hypnose justement dans sa pratique de tous les jours. C'était un psychiatre, psychologue aussi. Et les résultats qu'il obtenait étaient tellement intéressants qu'on a modélisé sa façon de faire, tout simplement. Et je dirais que c'est ce type d'hypnose qui est la plus répandue, qu'on va retrouver plus facilement dans les cabinets, les cabinets de ville ou même à l'hôpital.
Hein. D'accord.
Voilà. Alors, il faut bien faire la distinction entre l'hypnose de spectacle,
ouais,
qu'on voit à la télé, entre autres, Mesmer et compagnie, avec l'hypnose dite thérapeutique.
D'accord.
L'hypnose de spectacle, c'est une hypnose qui a le mérite d'exister, et elle existe réellement. Mmh. Alors après, bien souvent, on va amplifier les effets avec une mise en scène, etc. Voilà, mais elle a le mérite d'exister. Malheureusement, ce type d'hypnose ne va pas fonctionner sur tout le monde. On va dire qu'elle va fonctionner sur 10% des gens, à peu près, quoi. Hein, c'est pour ça que l'artiste va faire le test des doigts qui se rapprochent. Vous avez dû essayer déjà devant la télé,
oui,
en regardant Mesmer, ou des mains qui se collent, etc. Voilà. Ça permet un petit peu de voir si on est réceptif dans l'immédiat, sur le moment, à ce type d'hypnose.
D'accord, voilà. Ok, super intéressant.
Donc moi, l'hypnose que je pratique en cabinet, ça n'a rien à voir avec ça. Hein, c'est de l'hypnose ericksonienne. C'est une hypnose qui est destinée plutôt à aider les gens, aussi bien à diminuer des douleurs, par exemple, à se libérer d'une phobie.
D'accord.
On peut aussi agir dans le développement personnel, tout simplement, hein, ou pour aider des sportifs. Mm-hmm. Hein, j'ai eu dernièrement deux personnes qui faisaient partie d'un club de tir, par exemple, qui tremblaient, club de tir au pistolet. Mm. Et voilà, donc on a fait un travail là-dessus et ça donne d'excellents résultats.
Et je me demandais justement, est-ce qu'il y a besoin d'une raison pour aller se faire hypnotiser ou...
Alors, oui et non. Une raison, chacun va avoir la raison qui est la sienne. Hein. Voilà, si vous souhaitez, si vous êtes musicien et que vous souhaitez améliorer votre jeu de batteur, séparer la main gauche de la main droite plus facilement, etc. Oui, on peut agir là-dessus, bien sûr. Après, si vous avez la phobie des araignées ou des piqûres ou des choses comme ça, c'est un excellent moyen de se libérer de ce genre de problème. Bah, quoi.
Justement, je me demandais d'où venaient les phobies. Et comment expliquer que l'hypnose peut soigner les phobies?
Alors voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec l'hypnose, on ne soigne pas. Premièrement, on n'a pas le droit de parler de soins, parce que ça n'appartient pas réellement au monde médical. Hein. La plupart des gens qui font de l'hypnose ne sont pas forcément issus du milieu médical. Voilà, je ne sais plus ce que vous m'avez posé comme question au départ.
J'ai dit, d'où venaient les phobies et comment c'est possible que vous ne les pas soigner du coup, mais...
Si vous voulez, on s'est rendu compte, grâce notamment à Milton Erickson, donc ce psychiatre américain, on s'est rendu compte qu'en modélisant sa façon de faire, ça a développé d'autres types de pratiques de développement personnel, notamment ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. À la base, c'est issu de la modélisation de la façon de faire de Milton Erickson. Et on s'est aperçu que le cerveau avait un mode de fonctionnement qui était très particulier. Et on peut réussir à diminuer, par exemple, une émotion négative simplement en utilisant les artifices qu'utilise le cerveau habituellement pour sauvegarder les données dans le crâne, dans les données de vie. Par exemple, pour une phobie, c'est un exemple, mais c'est un petit peu plus complexe que ça, mais par exemple, une personne qui a peur des araignées, peut-être que c'est le mouvement de l'araignée qui peut lui faire peur. Ça peut être autre chose. Ça peut être la longueur des pattes, par exemple, ou même la couleur de l'araignée. Eh bien, en aidant la personne à se faire une représentation mentale de la pire araignée qu'elle puisse imaginer, on change ce qu'on appelle les sous-modalités Par exemple, si l'araignée, si elle a peur des araignées à longues pattes avec la couleur noire, eh bien, on va changer la couleur de l'araignée. On va rendre l'image beaucoup plus floue, par exemple. Et on s'est aperçu que ça avait une incidence au niveau émotionnel sur la phobie. Voilà. Bon, là, je fais court, hein, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mmh. Mais en gros, c'est comme ça. C'est-à-dire que toutes nos expériences de vie, on les archive sous forme d'images, de sons, de sensations, de sensations intérieures, d'émotions aussi. Et on peut jouer là-dessus, sur la force de ces émotions, juste en changeant comme ça des paramètres qu'on pourrait changer quand on est devant la télé avec notre télécommande, on met un peu plus de couleur, on diminue un peu la couleur.
Okay.
Par exemple, quand on regarde un film, si on accélère le film, il ne va pas avoir le même impact émotionnel sur nous que si on regarde le film au ralenti ou à vitesse normale. Voilà. Le cerveau fonctionne exactement pareil.
D'accord.
Voilà. Okay. Et ça permet vraiment de... C'est ça un petit peu le côté magique de ces thérapies brèves. Donc là, on parle de PNL, hein, de la programmation neurolinguistique. Et grâce à l'hypnose, en tout cas, c'est ma façon de faire, je vais aider la personne à rentrer dans un état d'hypnose et je vais utiliser des techniques de PNL qui permettent, grâce à l'hypnose, d'être enfoui, d'être... beaucoup plus efficace, si vous voulez, au niveau de l'inconscient, tout simplement.
Okay.
Parce qu'un état d'hypnose, c'est un état qui est tout à fait naturel, que vous connaissez tous, hein, tout le monde. Mmh. Chaque personne va vivre un état d'hypnose au quotidien.
C'est le semi-sommeil, non ? C'est pas
non,
ça ?
En fait, ça n'a rien à voir avec le sommeil. C'est ce qu'on appelle un abus de langage. L'hypnose, c'est assez difficile à déterminer ce que c'est. On peut dire que c'est un état de conscience qui est inhabituel, et modifié. Ça veut dire que tout au long d'une journée, on va spontanément changer d'état de conscience. Hein. Il y a des moments où on va se sentir fatigué, d'autres moments où on va être rempli d'énergie, très aux aguets sur ce qui se passe autour de nous, etc. Ça, c'est autant d'états de conscience qu'on connaît tous, qu'on a tous vécu. Et il y a aussi cet état de conscience où on se retrouve dans la lune, par exemple.
Mm-hmm.
C'est un état d'hypnose.
Okay.
On ne dort pas. Si vous avez l'habitude de conduire, je prends souvent cet exemple pour l'expliquer aux gens, hein, vous êtes habitué à faire toujours le même trajet en voiture, au bout d'un moment, vous vous dites « Oh bah merde, je suis déjà arrivé là, quoi.
»
Vous voyez le panneau ou un bâtiment, vous dites « Bah, vous n'avez pas vu le temps passer.
»
Eh bien, en fait, c'est un état d'hypnose. Pourtant, on ne dort pas. Mmh. Et il y en a plein d'autres.
C'est un espèce de sentiment de sécurité, mais dissimulé, en somme.
Pas
c'est
forcément.
L'habitude, en fait, qui prend le dessus et on se dit « Bon bah, j'ai l'habitude de faire ça très très longtemps, du coup je vais réduire mon attention. »
Alors oui, on peut voir ça comme ça, mais un état d'hypnose, ça peut être aussi déclenché par la terreur. Hein, ce qu'on appelle des ruptures de pattern, par exemple, ou quelqu'un qui va avoir un accident de voiture, pourquoi pas. Bien souvent, même s'il n'y a pas de dégâts au niveau physique, bien souvent la personne va se retrouver choquée, donc en état d'hypnose. En état d'hypnose, c'est-à-dire en état de conscience modifiée. Après l'état d'hypnose, vous avez plusieurs profondeurs d'hypnose. Hein, et vous avez des personnes, on n'est pas tous égaux.
Bah, justement, j'allais demander si tout le monde était réceptif à l'hypnose
oui,
ou pas.
Tout le monde. Et il n'y a pas d'exception.
Même ceux qui n'y croient pas, parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas du tout à l'hypnose.
Ouais, alors, vous savez, c'est paradoxal, parce que bon, ça fait quelques années que je suis installé sur Alençon, et je reçois des personnes qui n'y croient pas aussi, alors, et qui argumentent pourquoi elles n'y croient pas. Comme si elle voulait me faire changer d'avis. C'est ça qui est marrant. Alors qu'en fait, je leur demande si d'après elle, ces personnes-là pensaient que le milieu médical avait du temps à perdre. Alors elles me disent, bah non. Alors je dis, comment vous expliquez qu'on fasse de l'hypnose au bloc opératoire alors ? Au bloc opératoire, dans la plupart des hôpitaux, maintenant, il y a une personne qui fait de l'hypnose.
Mmh, c'est vrai.
Donc c'est vrai que c'est logique. C'est logique. Donc, bah, c'est que ça existe. Et puis surtout, maintenant, on en a la preuve que ça existe. En tout cas, des effets de l'hypnose.
Mmh.
Alors après, au niveau du fonctionnement, c'est encore un petit peu flou, je dirais. Mais on sait que ça fonctionne, qu'il se passe des choses. Et on reste donc sur des thérapies brèves. C'est ça qui est intéressant parce que, par exemple, pour une phobie, je parle des phobies parce que ça concerne vraiment beaucoup de gens. Hein.
Mmh.
Par exemple, pour une phobie, on va la traiter en une, deux, trois séances. C'est tout. Voilà.
Mais pour quelles raisons ou causes les gens viennent le plus souvent ? J'ai vu que ça pouvait être les phobies Ou l'arrêt du tabac, c'est quoi les plus fréquentes?
Alors le plus fréquent, il y a beaucoup de gens qui viennent consulter pour les crises d'angoisse, pour les phobies, pour mincir.
Pour
mincir ou pour même prendre du poids. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'inconscient, c'est une partie de nous-mêmes qui s'occupe de nous depuis toujours. L'inconscient, on le compare un petit peu à un enfant. C'est-à-dire qu'il peut ne pas être d'accord avec nous. Et c'est ça qui est dingue. L'inconscient peut ne pas être d'accord avec nous. Voilà. Le problème, c'est que cet inconscient, c'est lui qui gère tout ce qui n'est pas conscient. Les battements du cœur, les émotions, même la respiration, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Et il gère aussi les comportements. Et c'est ça qui nous intéresse pour quelqu'un qui veut perdre du poids, par exemple. Si la personne a tendance à se jeter sur la nourriture, sur le chocolat, quand elle a une émotion ou quand elle s'ennuie, eh bien, avec l'hypnose, on va favoriser un changement au niveau comportemental de la personne. Et en général, ça donne de très bons résultats. Alors après, ça ne se fait pas en une séance. Il faut quelques séances quand même. L'hypnose, si vous voulez, c'est comme un couteau suisse. On peut faire beaucoup de choses. Ce n'est pas non plus magique. Mmh. Ça veut dire que la personne doit se sentir investie dans son désir d'aide, que ce soit de soins ou autre chose. Sinon, effectivement, les résultats... ça peut être moyen, ça peut même être très moyen. Vous avez des personnes qui vont se plaindre de tels maux et on leur propose une solution. Cette solution, parfois, d'une manière inconsciente, elles vont la refuser parce qu'elles ne veulent pas sortir de leur zone de confort. En gros, c'est ça, quoi.
D'accord. Voilà. Parce que vous venez de parler des bienfaits, mais justement, il y a sans doute des méfaits, je suppose, avec l'hypnose.
Théoriquement, il n'y a pas de méfait avec l'hypnose. Si vous voulez, il y a même des praticiens qui vont recevoir des personnes, vont les mettre en état d'hypnose comme ça, et les laisser, sans s'occuper d'elles. Et au bout d'une demi-heure, d'une heure, voire plus, la personne, elle sait pourquoi elle est là, pourquoi elle est venue. Et être en état d'hypnose, c'est permettre à la partie inconsciente d'avoir une autre vision de la vie, aussi bien ce qui se passe à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et les personnes peuvent se céder, en fait, seules, grâce à l'état d'hypnose. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Alors après, c'est pas du 100% garanti. Moi, je le fais pas, personnellement, de mettre les gens comme ça en état d'hypnose et de les laisser. Non, ce serait trop beau. On a des réussites, je sais que ça existe. Moi, je le fais pas. Si vous voulez, l'inconscient, suivant Milton Erickson, l'inconscient, c'est un petit peu un gros réservoir de ressources. Un gros réservoir dans lequel flottent des ressources, de la confiance en soi, de la peur, tout ce qui peut nous être utile ou pas dans notre vie. Tout est dedans. Et quand on est en état d'hypnose, ces ressources sont disponibles, en fait, beaucoup plus facilement qu'à l'état de veille. Et simplement, on va piocher. Par exemple, pour la confiance en soi, il y a beaucoup de gens qui consultent pour ça. Si j'ai une dame qui me dit, j'arrive pas à... Dès que je suis en face de quelqu'un, j'ai du mal à parler, j'ai pas confiance en moi. Je lui dis, d'accord. Mais il y a bien des personnes avec qui vous discutez très facilement où vous vous sentez parfaitement bien. Alors on me dit oui. Par exemple, je suis très complice avec tel ou tel ami. Je lui dis, d'accord. Donc ça veut dire qu'elle a déjà la ressource de confiance en elle pour discuter avec quelqu'un. Donc on va copier la ressource. Et on la colle là où on en a besoin. C'est du copier-coller d'ordinateur.
D'accord. Voilà. Ok.
Et ça se passe par l'imagination.
D'accord.
Parce qu'on est des machines à imaginer. L'être humain, c'est vrai, on passe notre temps à ça.
Moi, je trouve que le truc le plus beau chez l'être humain, c'est les rêves.
Alors, les rêves, on m'en parle souvent. Parce que j'ai des gens, des fois, qui me disent « j'ai fait un rêve, pas possible ». Voilà. Moi, j'ai un avis un petit peu tranché là-dessus. Déjà, je ne crois pas du tout à l'interprétation des rêves. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que chaque individu va avoir sa propre signification personnelle par rapport à tel ou tel rêve. Si la mort, voir un squelette dans un rêve, pour beaucoup de gens, ça va représenter la mort. Voir une tête de mort, c'est la mort. Chez d'autres personnes, ça peut vouloir dire complètement autre chose. Donc ça, faut le prendre en compte. C'est pour ça qu'on vend beaucoup de livres avec l'interprétation des rêves. Moi, je suis pas, j'y crois pas à 100%, si vous voulez.
Tout dépend de la personne, en fait.
Ouais, chaque personne est différente.
Exactement.
De toute façon, donc...
Chaque personne est différente. Et voyez, je prends souvent cet exemple-là. Imaginez. Alors ce mot, je le dis souvent parce que on passe notre vie à ça. Donc. Imaginez deux enfants, par exemple de 2-3 ans, des petits jumeaux. Vous les emmenez pour la première fois au bord de la mer. Voilà, vous les laissez patauger dans l'eau au bord. Et d'un seul coup, il y a une vague qui les éclabousse. Il y en a un qui va pleurer et l'autre qui va rire aux éclats. Donc, même si on est très proche d'un autre individu de la même famille, on va dire un clone pratiquement, eh bien, on peut avoir une perception du monde qui nous est propre. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que, et ça rejoint le phénomène d'interpréter les rêves. Hein, vous avez une personne qui a décidé que ce sera comme ça. Si vous voyez un cygne voler, bah c'est enfin un oiseau voler à tel endroit, c'est ça. Bah oui, mais c'est son interprétation à elle. Voilà. Après, c'est culturel aussi. C'est vrai que d'une culture à l'autre, on va avoir des grandes lignes qui vont se rejoindre quand même, hein, dans la même culture, les mêmes populations, etc. Mais bon, là, c'est encore autre chose.